parabole du jour avec le Père Willem.
Vivre ensemble la fin du monde pour accueillir un monde nouveau. Si une fois il vous semble que le monde ne vous était pas contraire, si une fois tout simplement votre prière a trouvé en ce monde l'écho de son consentement, de son exaucement, alors abandonnez-vous à Dieu comme l'enfant dans les bras de sa mère ou de son père. Il en est de ces pères qui lâchent l'enfant, c'est qu'ils sont usurpés, ils ont usurpé de Dieu le nom de père qui leur fut confié en celui qui fut l'origine de ce nom et de la fonction qui s'y rattache. Notre confiance ne peut être que totale, trop beau pour être vrai. Est-on tenté de croire ? On est tenté de croire, oui. On entend souvent cette phrase, « trop beau pour être vrai ». C'est donc bien là une tentation, comme si l'excès de beauté n'était pas signe de réalité, comme si elle n'était réelle que les choses laides ou sans saveur, et réalistes les hommes qui retiennent de l'existence seulement les aspects les moins propres à nourrir leur joie. Il est des choses dont on sait qu'elles sont vraies, précisément parce qu'elles sont trop belles. L'évidence de leur beauté force notre assentiment. Nous n'avons pas reçu la source des êtres et leur sourire. Les êtres qu'on aime, on ne les a pas reçus pour qu'ils s'effacent, comme s'ils n'avaient été rien. Ils existent, ces êtres, à tel point qu'ils portent avec eux la promesse de résister au néant. Mais s'il n'est pas pervers, du moins, Dieu peut-il être impuissant? L'amour dont il est la source déplace les montagnes. Serait-il dévier la trajectoire d'un astéroïde ajourner une catastrophe nucléaire? Et s'il ne le fait, pourra-t-il du moins tenir la promesse de la résurrection? Tel est encore une fois ce qui se joue en profondeur dans notre peur que le monde finisse. Le doigt est une fois de plus mis sur l'essentiel, la foi. Une première raison d'être, et il y a aussi cette autre raison, d'ôter la vie humaine à sa totale absurdité, a été avancée. Dieu est digne de confiance. Le visage qu'il présente parce qu'il dit de lui, les écritures que l'on lit, ou ce qu'il en laisse deviner par la saveur de nos vies, autorise que l'on se fie à lui. Ainsi, l'attribut de Dieu que nous acceptons volontiers et la bonté. Mais cela ne suffit pas encore à fonder une confiance totale. Il faut adjoindre à la bonté la puissance, ce qui ne va pas sans quelques difficultés. La bonté, pense-t-on avec raison, est renonciation à la puissance, du moins quand cette puissance est débridée, car la puissance, contrairement à ce qu'un certain angélisme voudrait nous faire croire, n'est pas en elle-même mauvaise. Sans elle, la bonté elle-même ne pourrait être effective. On peut donc être à la fois bon et puissant. On le doit évidemment. La bonté n'est pas la gentillesse. Cette doucereuse renonciation à soi-même, le goût extrême du compromis qui vire à la compromission afin de ne pas déranger. Dieu ne nous a jamais demandé d'être gentil, aimable. Sa bonté a souvent la douceur d'un coup de pied au derrière. Elle est virile, paternelle, de coiffante. François d'Assise, vous le connaissez un peu, J'espère que vous le rencontrez parfois le soir, avant de vous endormir, dans quelques ruelles de votre village ou de votre ville. Oui, François d'Assise était sans armes. Il n'avait pas d'armes. Mais partout, il portait, par son vécu littéral de la foi, la discorde et la guerre. Oui, partout. Rien du hippie chez lui. Le hippie confond bonté et impuissance et s'applique à force de joints qui le disjoignent des autres comme de lui-même, à tuer en lui-même toute puissance. Mais la passion du Christ n'est-elle pas adhésion à l'impuissance? Ne lit-elle pas bonté et refus de la force? Non pas, il faut être fort pour renoncer à la force. Il le faut à notre tour pour recevoir le message qu'ainsi Dieu nous envoie. Non pas être sage comme des images, mais force d'amour pour lui et pour notre prochain, n'ayant jamais peur de déplaire aux bourgeois, ni de les aimer toujours, quand même nous leur déplaisions. Le Christ nous demande d'assumer la puissance jusqu'en ce point ultime où elle renonce à elle-même et devient amour du prochain. Peur, oui, pour autrui et non de lui. Dieu fait chair. C'est tout simplement la toute-puissance qui, incapable d'être jalouse d'elle-même, ce serait signe d'impuissance, se livre aux hommes afin de les relever, afin qu'ils croient en leur dignité. Cette dignité propre est sûre de n'être pas de vaines marionnettes, que ces hommes fassent de ce monde et de leur vie une offrande à Dieu. Si toute bonté, toute puissance peuvent coexister en Dieu, alors au moment de notre fin, il ne sera jamais seul. Il ne laissera jamais seul. Mais comment dès lors comprendre ces abîmes de solitude au détour de notre vie? Si Dieu ne nous laissera jamais tomber, pourquoi chutons-nous si souvent? Eh bien, l'épreuve a dans la vie de celui qui met sa confiance en Dieu une vocation particulière qui la rend si précieuse. Précieuse sans toutefois qu'on puisse la désirer pour elle-même, car l'épreuve qu'on se choisit n'en est plus tout à fait une. En revanche, l'épreuve à traverser, celle qu'on ne se choisit pas, à laquelle il nous est seulement donné de consentir, cette épreuve a ceci de précieux, voire d'indispensable, qu'elle nous fait passer de la confiance qu'on a en Dieu à celle qu'on lui fait. Avant l'épreuve, la confiance était un sentiment de sécurité. Dieu n'était pas quelqu'un avec qui on liait relation, il était quelque chose sur quoi reposer. Avoir confiance et être certain que les choses se passeront comme il est prévu, mais quand les choses nous font faux bond, l'alternative se présente à nous, s'enfermer intimement dans la méfiance. C'est une possibilité, et certains ont trop souffert pour croire à nouveau en quoi que ce soit. Une décision peut seulement être prise, non plus avoir, mais faire confiance, ce qui ne se peut que de passer de la sensation agréable de maîtrise au risque d'une relation.